enchanté. Comment allez-vous? Très bien, merci.
Alexandre Astier, on sait depuis les génériques de Kaamelott que vous êtes aussi compositeur, que les musiques, c'est vous qui les signez. Celles et ceux qui ont vu ou vont venir voir l'exoconférence auront aussi une sacrée surprise musicale. Trois petits points. Vous l'avez déjà évoqué, la musique, ça commence au conservatoire. Apprentissage extrêmement classique pour vous.
Ah oui, très académique, le plus académique qu'il soit. Auquel je peux pas vraiment, je peux rien reprocher puisque c'est là-bas que j'ai tout appris. Mais c'est vrai que c'est un enseignement qui est pas très ludique. J'espère qu'il a changé. Je crois savoir que non, pas trop, malheureusement. Mais bon, voilà. C'est-à-dire que j'ai commencé à 6 ans et puis j'étais dans les horaires aménagés. C'est-à-dire que je faisais ça tous les jours. Et c'est vrai qu'il m'a fallu quand même arriver à 14 ou 15 ans et rencontrer des gens qui m'en sortent un peu, comme des gens comme Mario Stanchev à Lyon qui s'occupait de la section jazz. Pour me faire rendre compte que je pouvais l'utiliser. C'est-à-dire que, effectivement, à un certain moment, vous jouissez d'une liberté. C'est une seconde langue, quoi. C'est-à-dire que vous entendez les trucs aussi facilement que votre propre langue. Mais c'est long. La forme académique de l'apprentissage, vous apprenez des choses qui n'ont pas de sens pendant très très longtemps avant de pouvoir mettre une utilisation dessus.
Mais qu'est-ce qui fait que vous avez continué ?
Ma mère, qui m'a monté là-haut à coups de pied dans les fesses et qui ne m'en a jamais laissé sortir, je l'en remercie aujourd'hui. Je ne vais pas vous inventer une conviction infaillible à ces âges-là, du tout, du tout. Non, j'étais comme n'importe quel gamin, je voulais la paix, jouer au Lego. Ma mère m'a forcé. Et du coup, j'ai fini. J'ai eu un prix de Paris et un machin. Mais j'ai... Voilà, une fois que c'est lancé, ça va. Mais ouf, les débuts, des fois...
Voilà, quand on a la liberté, qu'on a appris cette langue, il faut ou pas en faire quelque chose. Vous avez commencé vite à écrire ?
Oui, j'ai commencé à écrire vers 10 ans à peu près. Et mon père m'a offert une première boîte à rythme de l'époque où j'ai commencé effectivement à arranger. Donc c'est en fait depuis l'âge de 10 ans, entre les anniversaires et les Noëls, je me faisais compléter ce qu'on appelle un home studio, c'est-à-dire avec des sampleurs, des instruments, des claviers. Voilà. Et puis en plus j'ai appris à composer, alors évidemment au conservatoire, puis après dans d'autres écoles. Et voilà, donc j'ai un enseignement très classique aussi sur la composition, mais... c'est un amusement pour moi qui est au même titre que les jeux qu'on a quand on est gamin, quoi. C'est une manière de fabriquer des trucs.
Ça rejoint votre tendance au... Vous êtes dit casanier, vous n'allez pas beaucoup sortir. Alors vous faites des allers-retours comme ça entre un travail d'équipe, que ce soit pour le cinéma, la télé, le théâtre, et puis quelque chose de plus solitaire, la musique. En l'occurrence, pour vous, c'est une pratique solitaire.
Complètement. Ça se fait dans une pièce que je retrouve, généralement à des heures où les autres dorment. C'est toute une façon d'entrevoir ce truc-là, qui est très dépendante du reste, hein, parce que si jamais je vais pas bien, j'ai pas envie d'écrire. Si jamais je suis tout seul dans une baraque vide, j'ai un peu moins envie. Et si mes mômes dorment, tout ça, si tout le monde va bien, si les chevaux sont bien gardés, s'il y a un morceau de chocolat dans le tiroir, je me lance dans des trucs de composition. Ça me rappelle quand j'étais môme. En fait, je pense que je fais toujours tout aujourd'hui comme quand j'étais môme, vraiment. Sachant qu'à mon avis, la naïveté que j'y mettais... me confère une espèce de facilité aux choses qu'il faut surtout pas perdre. L'âge venant, il y a le cynisme, il y a les choses qui s'installent, qui sont bonnes pour écrire de temps en temps, mais faut faire gaffe qu'elles s'installent pas vraiment. Cette naïveté-là, pour moi, c'est une vraie quête. C'est une manière d'être garant de ce que je fabrique et de l'honnêteté de ce qui sort, quoi.
Et qu'est-ce que vous écoutez, vous, Alexandre Astier? Alors, il y a eu ce spectacle sur Bach. Alors, par exemple, pour Bach, vous écoutez qui de préférence pour la partie, on va dire? Clavier, en tout cas.
Donc j'ai épluché tout ce que je pouvais pour essayer de trouver le meilleur interprète de Bach au clavier, si tant est qu'un tel truc puisse exister. Et j'ai fini par tomber complètement par hasard sur une interprétation du clavier... non, c'est pas le clavier qui m'intéresse, c'est les variations Goldberg, d'une pianiste russe qui s'appelle Ekaterina Dershavina, qui pour moi est voilà, la perfection. C'est comme ça que j'aurais voulu le jouer, c'est comme ça que je veux l'entendre, c'est comme ça que j'en ai toujours rêvé, même mieux. Donc, en ce qui concerne le clavier, j'ai vraiment une affection très particulière pour cette pianiste, qui n'est pas très connue du tout, mais qui pour moi est vraiment exceptionnelle. Et puis, c'est vrai que j'écoute Bach un peu tout le temps. Ben, j'écoute pas mal Angela Hewitt aussi, j'écoute pas mal Anne-Marie McDermott. Puis, il n'y a que des filles. Hein. Écoutez,
Les garçons, les Sokolov, les Gould.
Non, mais Gould, oui. Oui. Non, mais sans snobisme. J'ai écouté que lui pendant un bon moment, vraiment. Qui a un rapport au contrepoint absolument. Fou dans le sens peut-être premier du terme. Ça m'a rendu dingue. Voilà, pour Bach, beaucoup de voix au clavier, c'est vrai.
Alors si on va de l'autre côté d'un spectre musical qui semble large chez vous, dans la musique, on va dire, d'aujourd'hui, vers où vont vos goûts ?
J'écoute beaucoup de métal. Alors, j'aime le métal un peu glamour de groupes comme Catatonia, des gens comme ça, qui sont des choses audibles. Puis, j'écoute certains trucs inaudibles. Alors, pas longtemps, parce que c'est pas fait pour, déjà, et pas en voiture, parce que j'aurai un accident. Donc, des gens comme Meshuggah, par exemple, qui sont des Scandinaves et qui ont une écriture complètement dingue, de mesures impaires, de choses extrêmement techniques, très complexes. Bon, dessus, ils hurlent des trucs, j'imagine en plus pas gentils, parce que je parle pas scandinave, mais je sais pas ce qu'ils hurlent, mais ils hurlent, ils sont pas contents, en tout cas ces gens, mais musicalement, je trouve ça fou d'invention, et j'avoue que le métal est d'une sensualité qui me manquerait si je devais ne plus en écouter. Il y a quelque chose de sain dans le métal, je trouve. Alors évidemment, si vous me projetez direct un film où ils en sont à 6 litres de bière chacun et où ils montent leur cul, on pourra dire, est-ce que c'est ça qui est sain pour Alexandre Astier? Ça n'a aucun sens. Les gens vont appeler. Mais au fond, si, c'est des gens sains. C'est des gens même qui cohabitent avec les gens là-bas au Hellfest. C'est des gens, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de... Entre ça et le rap que j'ai beaucoup écouté à une époque, parce que j'aime beaucoup certains arrangements, Dr. Dre et tout ça, j'avoue que l'iconographie qui trimballe comme quoi le bonheur serait du pognon, les voitures et les gonzesses qui ne portent pas de pull au vert, je ne crois pas à ça. Et je les trouve plus tricheurs que les mecs qui font du rock.
Le métal, c'est sain. On verra ce qu'il en sera demain pour la littérature.